Culture sans frontières.
Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle. Andrea Sedlačková vit une double vie. En France, monteuse de grands films à succès, en République tchèque, réalisatrice de films. Nominée au César cette année pour le film Welcome de Philippe Lioré, elle travaille à l'heure actuelle sur le scénario Des Lâches de Josef Škvorecký. Le monde de ce grand nom de la littérature tchèque, elle le connaît bien, puisqu'en 2009, elle a réalisé Rytmus v patách, le rythme au talon, qui s'inspire de récits de l'écrivain tchèque. De cela, de ses débuts en France, de la révolution de velours qu'elle a ratée, et contre toute attente du caractère similaire des Tchèques et des Français, de tout cela, il a été question dans l'entretien qu'elle nous a accordé et dont nous vous proposons cette semaine la première partie. Andrea Sedlačková est d'abord revenue sur sa décision d'émigrer quelques mois avant ce qui allait être la révolution de velours.
Prendre la décision, c'était pas une chose simple, évidemment. Et il y avait multiples raisons. Il y avait des raisons parce que je croyais d'être virée de mon école de cinéma de Prague, que je faisais à l'époque. Parce que la situation en République tchèque était immobile. Et je croyais qu'elle va rester immobile pendant des années. Parce que...
Vous pensiez ne pas avoir d'avenir ici?
Oui. Je pensais avoir l'avenir des gens que je connaissais, les gens de dissidents, les femmes qui écrivaient à la maison le soir et qui faisaient le ménage dans la journée. Et en fait, parce que je voyais que pour moi, il n'y avait pas la perspective de pouvoir vraiment collaborer avec le système dans la structure officielle, que je m'éloignais de plus en plus de ça, de cette idée de la vie. Mais en même temps, l'autre idée de la vie ne me plaisait pas non plus. Et je me disais, voilà, je ne veux pas cette vie-là, je veux une vie de liberté d'expression, de liberté de voyage. Sinon, il y a Pavel Tigrit, qui était en fait un rédacteur en chef d'une revue littéraire à Paris pendant 20 ans, qui disait qu'on a tous demandé l'asile politique, pas à cause de la politique, mais qu'on a essayé tous d'échapper à nos parents.
Est-ce que vous avez essayé d'échapper à nos parents?
Je pense qu'en fait, en profondeur, c'était aussi une des raisons.
Une espèce d'émancipation.
Oui. Et en fait, je réfléchissais aussi sur le choix du pays, parce que je ne parlais pas un mot français. Et en fait, je suis d'abord allée en Angleterre, parce que je parlais anglais. Et je me promenais à Londres et je me disais, mais je ne veux absolument pas vivre dans ce pays où on boit que la bière et le whisky, et je ne bois que du vin. Voilà, j'ai repris le bateau, en fait. Et je me suis dit, est-ce que ce sera pas plus raisonnable d'aller en Allemagne ou en Autriche, parce que aussi, je parle allemand, mais ça me plaisait pas du tout. Je me disais, c'est tellement éloigné de mon caractère. Et je trouvais ça assez extraordinaire, ce moment-là, qu'en fait, je savais que je peux décider. Vraiment, comme si vous pouviez décider où vous allez naître. Est-ce que je vais décider de naître aux États-Unis ou en Angleterre ou en Autriche ou n'importe où dans un autre pays? En fait, j'aurais pu aller où je voulais. Et j'ai décidé la France parce que j'aimais bien la littérature française et le cinéma français, mais je parlais pas un mot français. Je connaissais quelques personnes, heureusement.
C'est une bonne raison aussi de déménager pour la littérature. Ouais. Enfin, notamment, c'est une belle inspiration. Donc, vous parliez pas un mot de français, c'est ce que vous dites. Mais vous avez fait la FEMIS. Alors, du coup, vous avez fait une école de montage. C'est pour une question de langue, justement, que vous avez choisi plutôt...
J'ai passé une année à apprendre le français. J'ai passé après le concours à la FEMIS et j'étais acceptée. C'était un espèce de miracle qui arrive dans la vie. Et j'ai choisi le montage parce que ça me paraissait en fait le plus proche de l'écriture, parce que j'ai étudié le scénario à Prague.
Mais c'était difficile d'écrire des scénarios en français?
C'était pas possible. Oui, c'était pas possible. Et aussi, je me suis dit, j'ai fait des études de scénario pendant 3 ans. C'est pas la peine que je continue à faire les mêmes études. J'avais pas assez de confiance en moi-même de me lancer en réalisation. Voilà. Mais je suis très contente de mon choix.
Les débuts, c'était comment à Paris? Alors vous dites en effet, vous parliez pas un mot, vous avez appris petit à petit, c'était une vie un peu bohème, un peu...
J'avais beaucoup de chance. Je dois dire vraiment que comme je vois de temps en temps maintenant les reportages des sans-papiers, des gens qui vivent vraiment des galères énormes en France, qui essayent d'avoir l'asile politique, qui n'ont pas, même s'ils ont vraiment vécu des enfers dans leur pays. Je dois dire que moi, j'étais une privilégiée. J'ai eu l'asile politique très, très vite. J'ai rencontré, justement, grâce à Pavel Tigrit et sa maison d'édition de témoignages, je rencontrais des Tchèques qui ont sympathisé avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui m'ont donné une bourse pour que je puisse étudier le français dans les bonnes conditions. Alors, j'ai gardé les enfants, j'ai joué dans le métro, j'ai chanté dans le métro. Bon, j'ai travaillé, je faisais des choses que j'aurais jamais fait à Prague, par exemple faire le ménage. Évidemment, c'est un petit peu nouveau pour moi. Je m'en suis assez vite sortie. J'habitais tout de suite dans le centre de Paris, non, c'était très bien. Voilà, j'avais pas de sous. Je me souviens que la première année, j'achetais toujours trois boîtes de raviolis en boîte, et ça, c'était mon repas pour la semaine.
Vous êtes partie avant la révolution, quelques mois auparavant, mais du coup, alors cette révolution de velours, que tout le monde devait attendre aussi, sans savoir peut-être qu'elle allait arriver, vous l'avez vécue depuis Paris?
Je l'ai vécue depuis Paris. Mais je l'ai vécu comme une espèce d'une personne sourde, comme je parlais pas mon français. C'était terrible. Je me souviens que j'ai regardé les journaux que je pouvais même pas acheter parce que j'avais vraiment pas de sous. Mais j'ai regardé les premières pages du journaux, j'ai vu les photos. Mais je comprenais pas exactement ce qui se passe. À l'époque, évidemment, téléphoner, c'était exclu. Ça coûtait une fortune. Alors j'allais au témoignage de la maison d'édition et là on apprenait chaque jour un petit peu de nouvelles de Prague, qu'est-ce qui s'est passé. Moi j'avais pas mon passeport parce que quand vous demandez l'asile politique, vous déposez votre passeport. J'ai demandé l'asile politique le 2 septembre 89 et j'ai commencé à travailler pour la radio Free Europe à Munich. Depuis Paris, oui. Du coup, eux, après, ils m'ont donné les papiers. Je pouvais avoir très vite le passeport avec lequel je suis arrivée à Noël. C'était un passeport provisoire et je suis arrivée à Prague.
Qu'est-ce qui vous a frappé?
C'était une souffrance terrible, terrible, parce qu'évidemment, j'avais l'impression de rater ma vie, de rater l'histoire, voilà, de tout faire mal de ma vie, de rater la plus belle chose de ma vie, j'avais l'impression d'avoir trahi mon pays. Mais justement, comme même à Noël, je ne parlais pas un mot en français encore, parce que ça allait pas si vite. Je me suis dit, non, il faut que je reste au moins un an en France, que j'essaye de faire mes études en France, que j'essaye de positiver cette expérience, de faire une espèce de contrebalance avec ce malheur.
Et vous étiez en contact, par exemple, avec les personnes ici qui faisaient finalement la révolution? Est-ce que vous aviez...
Oui, moi je les connaissais tous.
Oui, vous l'avez vécu, mais par eux finalement, d'une certaine
façon.
Je
les connaissais tous, j'avais quelques coups de téléphone, j'avais beaucoup de correspondance parce qu'à l'époque on écrivait beaucoup de lettres. Je me dis chaque fois que je devrais le transcrire et publier parce que c'est vraiment, j'ai des lettres de beaucoup de futurs révolutionnaires et après c'était des révolutionnaires et post-révolutionnaires. Et d'ailleurs, je me suis posé la question si je ne devrais pas revenir, rentrer dans la vie politique parce que j'avais beaucoup de copains qui sont devenus politiciens, qui sont d'ailleurs restés même politiciens. Et moi, ça m'intéressait beaucoup et je trouvais ça que c'était un service à rendre au pays. On avait à cette époque-là cette idée-là de la politique, que c'est une chose noble et importante et que ça peut être même pour nous. Parce que maintenant, je pense que c'est le contraire. On pense que c'est vraiment que pour les gens absolument nuls. Mais bon, voilà, j'ai décidé de poursuivre ma petite vie française.
Assez intéressant. Je vais faire juste une petite digression sur vous, votre portrait, mais finalement c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Vous dites voilà que à l'époque c'était l'idéal de la politique était noble. Je suis d'accord avec vous. Moi quand je lis ou quand j'ai un peu étudié aussi voilà ce qui s'est passé à l'époque hein, pendant la révolution de velours. Bon, c'est évidemment incarné par Václav Havel notamment. On sent qu'il y avait vraiment cette espèce d'engouement et de foi finalement dans la politique, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de gueule de bois?
Mais est-ce que la politique est vraiment noble? Je ne sais pas. Je ne sais pas si en fait, parce que c'est dans tous les pays pareil, dans tous les pays on a cette idée-là que les politiciens doivent être une espèce de vierge, de gens absolument extraordinaires, et on voit qu'ils sont pires que les autres. Et je sais pas, est-ce que la politique, en fait, elle peut vraiment... Est-ce qu'elle peut être faite par les gens bien? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que Karel Schwarzenberg, je le trouve bien. Voilà, c'est un de derniers survivants, c'est le dernier Mohican.
Vous suivez un peu ce qui se passe justement en République tchèque
Ah, tout le temps, moi je suis abonnée à Týden, que je reçois chaque semaine dans ma boîte à lettres. Et sinon, évidemment, je regarde l'Internet et je viens assez souvent. Et j'adore la presse écrite. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à Paris, et c'est en fait en permanence, je demande toujours, vous m'apportez tous les magazines, les journaux. sinon, j'aurais pu être journaliste. J'adore ça.
On sait jamais, hein. C'est peut-être une vocation future si jamais vous décidez de vous reconvertir.
Ben oui, mais c'est pour ça que je travaille pour la radio Free Europe.
Ça vous a plu, cette expérience, justement?
J'ai fait quelques reportages, hein. C'était très court, mais je me souviens qu'en fait, j'ai montré mes textes à Pavel Tigride, et lui, il m'a donné des premières, il disait que ça, il faut faire comme ça, les phrases ici, voilà, ici, il manque le centre un peu plus dynamique. C'était le début, mais je me souviens que je me suis demandé en France, est-ce que je veux étudier une école de journalisme ou de cinéma.
Et pourquoi est-ce qu'il a gagné justement le cinéma?
Ah, je pense qu'on peut prendre plus de liberté quand même au cinéma, qu'il y a plus de fantaisie. Vous pouvez, les choses sur lesquelles j'écris souvent, mes scénarios que j'écris, ils sont assez autobiographiques, mais en même temps, ils sont aussi romancés. Ça veut dire qu'il y a une partie de réalité qui me plaît dans le journalisme, mais une partie
de création
que dans le journalisme est un peu plus difficile à développer, mais elle est possible.
Alors justement, vous dites voilà, que vous réalisez des films, vous écrivez des scénarios, vous en avez déjà écrit beaucoup justement pour la télévision tchèque notamment, mais vous travaillez alors surtout vos films, vous les faites ici en République tchèque, si j'ai bien compris. Vous,
ouais.
En France, c'est le montage, notamment alors pour les auditeurs qui le savent, puisqu'on l'a interviewé l'an dernier dans le cadre du festival de Carlo Ivari, le film Welcome de Philippe Huret. Ça, c'est vraiment le dernier, disons, donc on pourrait citer, qui a eu un bon succès en France.
Pour lequel j'étais nommé au César.
Et pour lequel vous étiez nommé au César, exactement, j'allais le dire. Ce qui n'est pas une mince affaire, voilà. Et donc vous tournez des films ici en République tchèque. Vous, c'est un peu schizophrène ou alors finalement vous arrivez à gérer les deux?
C'est une schizophrénie très assumée. Moi, j'aimerais bien, si un jour j'ai un sujet qui se passe en France, qui me passionne, je me mettrais avec un grand plaisir à l'écrire. Mais en fait, jusqu'à maintenant, chaque fois que j'ai une idée, elle se passe ici. Là, j'ai un scénario que j'ai fini il y a un an et demi, qui est sur le dopage dans les années 80 de le sport tchécoslovaque communiste. Évidemment, j'aurais pu écrire un film ce qui se passe sur le dopage en France, mais voilà. Moi, tout de suite, l'intrigue, elle se liait autour de la police secrète, parce que chez nous, en fait, c'était assez particulier parce que le dopage était organisé par l'État. Du coup, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, etc. Voilà. Là, j'écris une adaptation d'un bouquin tchèque qui s'appelle Les Lâches de Joseph Skvoretsky. Voilà. L'auteur m'a proposé, en fait, de l'adapter. C'est un très grand honneur. J'ai dit oui, évidemment. Voilà, je fais ça, je suis très heureuse de faire ça. Et en France, on me propose beaucoup de choses très intéressantes à monter. En fait, des films magnifiques. Et j'ai pas envie de dire non. Et je sais que si je commencerai à réaliser en France, je pourrai plus monter. Ça, c'est pas possible en France. Vous pouvez pas mélanger les genres.
Comment ça se fait?
C'est très casté en France. Vous pouvez pas, même moi, je peux pas monter un téléfilm, par exemple, parce que voilà, c'est casté, vous êtes monteuse de cinéma, vous n'êtes pas monteuse de télévision, etc.
Ici, c'est plus flexible, en Tchéquie.
Oui, tout est beaucoup plus mélangé. En République tchèque, pas seulement ça. Ça fait d'ailleurs partie de plaisir de la vie tchèque, je trouve.
Et de son charme.
Ouais. Voilà, je l'assume complètement. Je me dis que ce sera plus simple pour ma famille, mes enfants. Sûrement, ce sera au niveau financier beaucoup plus avantageux de réaliser des films en France. Mais c'est comme ça. Et peut-être un jour, ça changera. Mais pas dans les mois qui viennent.
Finalement, c'est peut-être aussi une manière de combler cette oscillation entre Paris et Prague, entre le monde français et le monde tchèque. Ça, finalement, c'est une façon de ne pas faire de choix radical et de rester...
C'est vrai qu'après 89, il y avait énormément de gens qui disaient « je vais essayer de vivre entre les deux ». Et il y en a très peu qui ont réussi, parce qu'aussi il y a très peu de métiers qui permettent ça. Et moi, j'ai l'impression à peu près réussir ça, même si c'est très difficile... Mais grâce spécialement maintenant aux low cost, aux compagnies aériennes low cost, c'est beaucoup plus simple quand même.